L'accès à Internet et à la téléphonie mobile, ce n'est pas un luxe, mais un droit. C'est la position défendue par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien de Normandie. Une belle déclaration publiée le 23 juillet dernier dans une tribune, en cohérence avec celle du premier cordé du pouvoir en place, le chef de l'État, Emmanuel Macron. Encore candidat, il avait fait de la couverture numérique du territoire une de ses grandes priorités. Cet accès reste cependant encore un luxe, pour une partie, certes minoritaire, mais pour une partie quand même de la population. 5% de la population française est condamnée à l'exclusion numérique et 10% à la semi-exclusion, car privée d'une connexion de qualité. Un programme baptisé Zone Blanche Centre-Bourg, portant sur les territoires sans couverture mobile, a été initié dès 2003 pour accompagner plus de 3850 communes. Mais il en reste plusieurs centaines hors réseau, alors qu'on est déjà en train de parler de développement du réseau 5G. Fin juin, une liste de 485 villages et bourgs devant bénéficier d'une implantation d'antenne 4G a été présentée par le gouvernement. Un gouvernement qui doit également rendre disponible le très haut débit partout en France d'ici 2022, comme cela avait été décidé fin 2012. Entre 2013 et 2018, on est passé de 27% à 55% du territoire. Reste donc 45% à couvrir et on sait que les derniers pourcentages sont toujours plus difficiles et coûteux. L'État, les collectivités locales et les opérateurs ont-ils les moyens d'aller au-delà des intentions, aussi louables soient-elles, dans un pays qui se classe par exemple 24e sur les 28 en Europe en termes de couverture 4G selon l'ARCEP? Ou doit-on se dire qu'une partie de la population doit vivre hors réseau vu l'absence de rentabilité pour les opérateurs? Sachant que l'exclusion numérique représente un risque réel d'exclusion économique et, pourquoi pas, d'exode de la population. Bref, ces zones blanches sont-elles inévitables ou pas? C'est ce dont nous allons parler jusqu'à 13h.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et nos débatteurs du jour sont d'abord présents en studio. Benjamin Bayard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la Fédération French Data Network, qui regroupe des fournisseurs d'accès Internet associatifs, c'est
oui.
Ça. Avec nous également Antoine Darotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'agence du numérique en charge du plan très haut débit, depuis l'origine quasiment.
Printemps 2013.
D'accord. Et en duplex, depuis Valence, Olivier Naudeau, bonjour.
Bonjour.
Alors merci aux équipes de France Bleu Drôme Ardèche de vous accueillir. Vous êtes maire de Saint-Cierges-la-Serre, une commune de 270 habitants dans le parc régional des Monts d'Ardèche, qui fait partie des 485 communes prioritaires pour l'installation de relais 4G. Et enfin au téléphone, Michel Combeau, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur général de la Fédération française des télécoms qui réunit les grands opérateurs en France, donc c'est-à-dire les quatre majors qu'on pourrait dire.
Exactement.
Alors, une question personnelle pour commencer à chacun d'entre vous. Avez-vous un endroit sans Internet et sans réseau mobile où vous séjournez régulièrement? Et est-ce que c'est par choix ou par contrainte? Benjamin Bayard.
Ah ben, j'ai eu très longtemps l'endroit où j'habite en banlieue parisienne, où j'avais un accès à DSL en dessous de Lamentable jusqu'à ce que ce soit fibré.
D'accord. Antoine Daronne, vous?
J'ai la chance d'avoir une maison de famille dans les Ardennes et qui n'est pas connectée très mal par le fixe et pas du tout par le mobile. Donc j'ai l'occasion de voir ce que c'est que de subir la fracture numérique.
Michel Combeau, de votre côté, vous, en tant que directeur général, oui, de la Fédération française des télécoms, vous êtes capable de faire remonter à vos adhérents, à vos membres, les endroits où c'est très difficile, par expérience personnelle?
Par expérience personnelle, il y a effectivement un coin de Bretagne dans lequel je vais souvent, effectivement, qui était une zone blanche. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte finalement au moment d'y aller en disant il n'y avait pas de réseau. Et en fait, le pylône a été installé un an après mon arrivée à la Fédération. Donc, ça a été pour moi un bel exemple, je dirais, d'avancée du déploiement des réseaux. Mais c'est vrai qu'on trouve, pour le coup, de plus en plus difficilement de zones blanches. Voilà, mais en tout cas, nous, on fait remonter effectivement tout ce que l'on trouve sur le terrain.
Alors, Olivier Naudeau, je ne vais pas vous poser la question, vous, puisque vous vivez cette situation au quotidien.
Oui, moi, je suis né dans un hameau et j'ai toujours vécu dans un hameau qui est en effet en zone blanche.
Est-ce que vous avez le téléphone fixe depuis longtemps au moins?
Ben, on a le téléphone fixe par intermittence aussi, parce que par voie hertzienne et pas filaire et avec beaucoup de problèmes aussi. Oui.
D'accord, on va expliquer tout ça dans quelques minutes. Chevalerex, autrement dit Raymond Poncé, avec Le Grand Absent, un extrait de son second album. Il sera en concert vendredi à Saint-Malo pour le festival La Rue du Rock.
Il y a de l'eau sur l'interphone, mais je ne veux plus voir personne. Quitter la ville, prendre un cierge, devenir cynique et misanthrope. Ne plus briller que par absence. Oublier les forces en présence. Seul sur mes névroses, quels sont les mots, quelles sont les causes? Et si le cortège est en bas, je m'enfuirai par les toits. Que tu me plaises peut-être bien. Oublions la voiture et le chien.
Chevaleresque, artiste choisi par Elsa Béranger, qui est en charge de la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assisté de Stéphane Beaujat. Elle a été préparée par Fanny Cohen-Moreau, Gaëtan Lévy et Aurore Mancy.
C'est quoi ce délire?
Papa, il y a Internet qui ne veut plus marcher.
Ah, je suis au courant. Mais qu'est-ce qui se passe? À la maison, on n'a plus Internet. Aucune connexion.
Oh mon Dieu.
Il n'y aura plus de zone blanche en 2020. C'est en tout cas l'engagement du gouvernement. Il a d'ailleurs publié cette semaine une liste des communes qui doivent être équipées en priorité en 4G. Mais à Saulx-Champenoise, dans les Ardennes, les habitants ont eu la surprise de découvrir qu'ils n'en faisaient pas partie.
Itinéry, je te capte plus là. Bouge. Voilà.
Et là, tu m'entends? Mais parce que ça me fait tout le temps en ce moment.
L'exclusion numérique, c'est la... Je dirais la contrainte de ne pas pouvoir l'utiliser. Or, aujourd'hui, l'outil numérique peut priver de liens, mais on s'aperçoit que pour certains, ça rend difficile l'accès à leurs droits, tout simplement, pour déclarer ses impôts, pour accéder à un minimum vieillesse, par exemple, pour accéder au RSA.
Aujourd'hui, en France, 99% de la population aurait accès à la 2G ou à la 3G, et 96% de la population aurait accès à la 4G. Malheureusement, la réalité semble un peu différente.
Ça capte pas.
Nous parlons ce midi, vous l'avez compris, de zones blanches, ces zones exclues du numérique. Pour commencer, prenons un exemple concret avec ce village de Saint-Cierge-la-Serre, aux communes hors réseau mobile et qui figure dans la liste des 85 qui devraient bénéficier d'une couverture 4G selon les engagements pris par les opérateurs en janvier dernier. Olivier Nodot, vous êtes le maire de Saint-Cierge-la-Serre. C'est quoi la vie quand on est dans une zone blanche?
C'est une vie un petit peu compliquée parce que, comme ça vient d'être dit, maintenant il y a beaucoup de choses qui passent par Internet. Ça veut dire qu'on a besoin de cet outil au quotidien, y compris les agriculteurs, y compris pour prévenir les secours en cas de problème et puis dans la vie quotidienne. Donc concrètement, ça veut dire essayer d'aller chez un proche, utiliser Internet, le faire un peu au travail pour ceux qui travaillent en dehors de la commune. Et puis un gros problème d'attractivité pour nos territoires parce que nous avons 8 logements communaux. Et une des premières questions qui revient quand on met un logement en location, c'est comment ça fonctionne pour Internet, est-ce qu'il y a la 4G, parce qu'il y a de plus en plus de travail à domicile aussi.
Un témoignage d'élu disait d'ailleurs que pour des parents, c'était une question qui revenait au même titre que l'école. Est-ce qu'il y a une école dans votre commune et est-ce qu'il y a le réseau mobile ? C'est ce que racontait un élu. Vous confirmez ?
Oui, ben nous, on a une école. Après, l'école, elle est située sur une des rares zones de la commune où on capte, pas la 3G, pas la 4G, mais où il y a quelques barres de réseau qui permettent de faire des appels vocaux et des SMS, quoi.
Et par rapport aux entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein pour pouvoir attirer des entreprises et des commerces ?
Oui, c'est un vrai frein. Alors nous, évidemment, la topographie et la taille de la commune font qu'on ne compte pas de toute façon attirer de multinationales, mais je veux dire pour les artisans au quotidien, oui, des appels pour des demandes de devis, pour des relations clients, on a pas mal de personnes qui sont à leur compte et qui sont pénalisées par le fait de ne pas être couverts en réseau, oui.
Et alors, quel est le retour que vous avez des administrés, de vos administrés ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de demandes assez pressantes ? Et quand vous avez été sélectionné dans la liste des 485 communes, est-ce que c'était une réponse satisfaisante ?
Ben nous, c'est une grande satisfaction d'être dans cette liste. Ça n'a pas été sans difficulté. C'est vrai qu'on a, depuis quelques années, entendu beaucoup de volonté publique de faire régresser les zones blanches et c'est un discours qui nous ravit. Après, ça a eu beaucoup de mal à se traduire dans les actes pour différentes raisons. Donc on est évidemment très satisfait de faire partie de cette liste. Et quant à la demande des administrés, évidemment qu'on a beaucoup la pression pour arriver à résorber ces zones blanches et pour satisfaire leurs demandes, oui.
Alors, quand vous dites qu'il y a eu différentes raisons qui ont repoussé la mise en application, quelles étaient ces raisons invoquées ?
Il y avait un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Il y avait un dispositif sur les centres-bourgs qui a permis à certaines communes d'Ardèche de bénéficier de nouvelles antennes relais. Et nous, comme j'expliquais tout à l'heure, on a 270 habitants et le chef-lieu où il y a la mairie, où il y a l'école, où il y a le café-restaurant, en fait c'est la seule zone où on a du réseau. Donc quand ce dispositif est sorti, on a quand même monté un dossier, mais il n'a pas été retenu parce que oui, les 70 habitants qui sont au centre-bourg, eux ont du réseau, même si c'est pas la 3G, c'est pas la 4G, mais ils ont du réseau et du coup, bien qu'on ait 200 habitants sur 270 qui n'aient pas de couverture mobile, on n'a pas pu bénéficier de ce premier dispositif.
Alors Michel Combeau, vous êtes vous directeur général de la Fédération française des télécoms qui réunit les quatre gros opérateurs. Ça veut dire quoi ces zones blanches ? Ça veut dire qu'il y a pour vous, pour vos adhérents, il y avait des villages, des endroits qui n'étaient pas économiquement intéressants ?
Enfin, je tiens à rappeler d'ailleurs que les opérateurs se sont engagés, comme vous l'aviez dit, en introduction depuis près de 15 ans dans les différents programmes du gouvernement en matière d'aménagement numérique des territoires. Et c'est vrai que le témoignage du maire de Saint-Cyr, Lasserre, est assez éloquent. On a fait évoluer ces programmes au cours du temps. C'est vrai que le programme Zone Blanche Centre-Bourg visait à apporter en urgence une première réponse à ces enjeux d'aménagement du territoire, à cette demande aussi de nos clients de disposer d'une couverture réseau sur l'ensemble de leur lieu de vie, de leur lieu de passage. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi, notamment en 2015, que cela ne suffisait pas et qu'il fallait aller au-delà en fait de ces centres-bourgs. Hein, le cas de ces 70 habitants dans le centre-bourg, mais ces 200 habitants dans des hameaux ou délocalisés du centre-bourg sont des cas que nous avons fréquemment rencontrés. C'est, je dirais, tout l'enjeu pour nous de répondre aussi à cette demande qui était au-delà des centres-bourgs, d'être dans une logique réelle d'aménagement du territoire. Et donc c'est vrai que c'est pas tant de le voir finalement en termes de rentabilité plutôt que de demande de nos clients, hein, qu'ils soient des entreprises ou des citoyens, que de pouvoir avoir accès à ces réseaux dans les lieux de vie ou dans leur lieu de travail et dans leur lieu de passage. Pour nous, le vrai enjeu, et en tout cas, on est content que maintenant Saint-Cyr-la-Serre puisse être, une fois que le pylône sera construit, couvert en fait sur l'ensemble de son territoire.
Alors, sachant, on vous dit que c'est pas qu'une question de rentabilité, néanmoins, pour ces 485 communes qui ont été sélectionnées dans le cadre de ce plan, c'est aussi parce qu'il y a eu des contreparties, notamment l'État vous accorde des licences à allonger la durée des licences et ne vous fait pas passer par la procédure d'enchères. Donc ça veut dire quand même que pour vous, il fallait avoir de la visibilité pour pouvoir investir davantage ?
Oui, effectivement, c'est ce que l'on a effectivement dit depuis déjà un peu plus de près d'un an et demi. la fédération avait porté en 2017 au moment des élections un contrat de mandature qui visait aussi à changer la logique autour des fréquences où tous les 3-4 ans l'État mettait aux enchères pour plusieurs centaines voire plusieurs milliards d'euros ces fréquences et demandait après aux opérateurs d'investir. On a effectivement eu, je dirais depuis plus de deux ans, depuis déjà même plus longtemps, conscience que nos concitoyens attendaient plus. Et on a effectivement proposé au gouvernement de dire changeons le paradigme des fréquences et au lieu de faire des enchères, nous sommes prêts à nous engager à réinvestir en fait l'intégralité des sommes que nous aurions dû donner au gouvernement à l'investir dans les territoires. Et notamment de prendre à notre charge entièrement les frais de construction de ces pylônes situés en zone blanche, qui étaient avant partagés entre l'État, les collectivités et les opérateurs. L'enjeu pour nous était de reprendre, parce que c'est notre métier d'investir et de construire des pylônes, de reprendre l'intégralité de ces investissements et notamment de pouvoir en fait donner une solution à certaines communes comme Saint-Cierge-la-Serre qui étaient effectivement sans solution. Et l'enjeu, c'est effectivement d'avoir un cadre global d'investissement pour les 12 prochaines années, à la fois avec l'absence d'enchères, mais aussi avec des mesures à la fois législatives et administratives qui vont nous permettre d'accélérer le déploiement des réseaux. C'est l'enjeu du projet de loi Elan qui est en cours de finalisation au sein du Parlement.
Alors Benjamin Bayard, vous qui représentez les fournisseurs d'accès associatifs réunis dans la French Data Network, il n'y avait pas de solution de votre côté, parce que là on a l'impression que tout est dépendant des grands opérateurs. Il n'y avait pas de solution, notamment avec vos adhérents?
Si, nous on a des éléments de solution sur les zones blanches. On fait pas tout, hein. Il y a plein de choses qu'on fait pas. Typiquement la téléphonie mobile, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher à ces fréquences-là, elles sont réservées. Donc on n'a pas le droit d'opérer dessus, on n'a pas le droit de fabriquer des petites poches de réseau mobile dans les endroits où on a envie. En revanche, on sait apporter du très haut débit à certains endroits, on sait couvrir tout un tas de zones blanches en très haut débit, on le fait. En fait, on a une difficulté qui n'est pas la même. Nous, on n'a pas tellement de problèmes d'investissement, parce que ce qu'on fait avec du Wi-Fi, quand on veut apporter 30 mégas ou 100 mégas symétriques chez les adhérents, ça demande très très peu d'investissement. En revanche, ça demande de l'humain. C'est-à-dire que nous, on construit des réseaux sur des associations qui fonctionnent sur du bénévolat. Et en fait, dans le hameau, pour qu'il y ait du réseau, il faut qu'il y ait des gens pour le faire. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de passer un peu de temps pour apprendre comment ça fonctionne, pour le faire fonctionner, pour faire vivre l'association. Après, techniquement, ça demande pas des compétences extraordinaires. La compétence la plus particulière, c'est de savoir fixer et orienter une antenne. Donc en fait, ça, il y a partout sur le territoire. Ça s'appelle un antenniste. C'est le monsieur qui fixe les antennes télé sur le toit et qui sait les orienter. Il faut une petite demi-journée pour qu'on lui explique comment s'oriente une antenne Wi-Fi, et que c'est pas une antenne télé, que ça marche pas tout à fait pareil, mais c'est pas très compliqué. Et en fait, une association qui gère localement du réseau, ça marche. On sait faire du réseau, on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qu'on couvre comme ça. Ce que ça demande, en fait, c'est un espèce de mélange entre une volonté des gens de faire des choses, de pas attendre qu'on le fasse pour eux, et une volonté des élus. C'est-à-dire qu'on a vu régulièrement des endroits où dans le village il y avait une volonté de le faire, mais monsieur le maire avait pas envie parce qu'il était assez frileux, il avait peur, il savait pas bien ce que c'était, il attendait que Orange vienne. C'est le grand classique, ça.
D'accord. Quand vous entendez ça, Antoine Daronne, donc vous, je rappelle, vous êtes en charge du plan très haut débit, c'est-à-dire que c'est un engagement qui a été pris fin 2012 pour dire qu'en 2022, la France serait entièrement couverte par le très haut débit. Quand vous voyez ces mouvements qu'il peut y avoir avec des gros opérateurs, des petits opérateurs, vous dites que c'est réalisable ?
Oui, c'est réalisable si on a une mobilisation effectivement qui est générale. C'est le fait que tout le monde soit derrière ces deux grands moteurs de l'aménagement numérique, à la fois sur le fixe, pour développer de l'accès fixe à Internet, en remplaçant la vieille réseau téléphonique en cuivre par des réseaux de fibre optique, d'une part. Ça, c'est le plan France Très Haut Débit, effectivement, lancé fin 2012, 20 milliards d'euros d'investissement, qui a été accéléré et renforcé dans les derniers mois pour notamment atteindre du bon haut débit pour tous dès 2020. Et puis, deuxième moteur, c'est effectivement, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, autant sur le fixe on a changé de braquet, là on change totalement de véhicule sur la téléphonie mobile, puisque au lieu d'avoir des programmes qui servaient uniquement à aller couvrir les quelques centres-bourgs qui étaient mal couverts, eh bien le gouvernement et les opérateurs ont conclu un accord au début de l'année qui va permettre d'avoir 3 milliards d'euros d'investissement supplémentaires, c'est-à-dire en plus de tout ce que les opérateurs consacrent chaque année pour des déploiements normaux de réseau, 3 milliards d'euros en plus dans les prochaines années qui vont permettre quoi ? D'abord, la généralisation de la 4G sur l'ensemble du réseau en France d'ici fin 2020. Il y a quelques exceptions, mais qui concerneront 2%.
Quand vous dites l'ensemble du réseau, c'est-à-dire est-ce que c'est couvrir l'ensemble du territoire ou est-ce que c'est couvrir 100% de la population ?
Tous les réseaux actuels fonctionnement aujourd'hui en 2G, 3G, basculeront en 4G d'ici fin 2020.
Donc il restera des trous.
Alors, il restera des trous, c'est pour ça qu'il y a une deuxième branche de l'accord de janvier qui prévoit de déployer de nouveaux pylônes. Et cette deuxième branche est à la fois sur des axes de transport prioritaires, par exemple les autoroutes, les routes nationales, les principales voies ferrées, mais c'est également un volant de 5000 sites, nouveaux sites par opérateur, qui vont être déployés d'ici 2024, dans les prochaines années. Donc, on a eu une première liste qui a été élaborée en quelques mois à partir des remontées qui nous étaient déjà faites de 485 communes, dont la commune du maire de l'Ardèche. L'année prochaine, on aura un volant de 800 sites à disposition qui vont être déterminés dans les prochaines semaines par les élus locaux et les collectivités territoriales en lien avec les préfectures et les opérateurs. Et donc, par exemple, dans le reportage qu'on entendait dans les Ardennes, eh bien, cette commune-là pourrait figurer dans la prochaine liste des sites à construire par les opérateurs dans le cadre, effectivement, du grand accord, ce qu'on appelle le New Deal, qui a été conclu au début de l'année entre l'État et les opérateurs.
Donc, on comprend bien qu'il y a l'Internet fixe, l'Internet mobile et la téléphonie mobile qui elle-même aujourd'hui se mêle avec l'Internet mobile.
Effectivement, hein, ce sont bien deux réseaux différents, mais en réalité qui se rejoignent de plus en plus. On voit bien que sur les usages, on bascule très facilement du fixe vers le mobile. Et donc, c'était nécessaire, en plus du plan France Très Haut Débit, qui encore une fois représente plus de 20 milliards d'euros d'investissement, hein, c'est plus de 2 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés dans nos territoires pour déployer ce nouveau réseau de fibre optique. Et puis là, on commence avec le réseau mobile, un nouveau plan, donc un deuxième moteur, qui aura des effets en termes d'investissement comparables au plan France Très Haut Débit.
Une question basique, est-ce que ce ne serait pas... on a l'impression qu'il y a une superposition de plans et de dispositifs. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une priorité qui doit être donnée en disant, par exemple, pour le cadre de villages comme Saint-Cierge, dont on parle, d'avoir déjà de l'Internet mobile avec de la 4G ?
Alors, on va pousser les deux moteurs. Typiquement, en Ardèche, donc cette commune fait partie des 485 communes identifié pour 2018 pour avoir un nouveau pylône de téléphonie mobile. Mais par ailleurs, dans le cadre du plan France Très Haut Débit, l'Ardèche et la Drôme qui se sont mis ensemble pour élaborer un grand plan ambitieux de déploiement de la fibre optique, eh bien l'État a consacré plus de 145 millions d'euros au déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire de l'Ardèche et de la Drôme d'ici fin 2024. Donc tout ça, c'est long, hein, et c'est un des éléments importants, c'est que le temps des infrastructures, c'est un temps qui est nécessairement long. On ne peut pas construire un pylône comme ça en quelques semaines. Il y a des temps de recherche de terrain, d'acquisition des terrains, de construction ensuite du pylône, d'adaptation des équipements. Ce qui fait que ça nécessite 12, 18, 24 mois au minimum pour que l'on ait du réseau mobile. Et sur le fixe, c'est pareil. Il faudra plusieurs années pour qu'on arrive à couvrir toute la France en très haut débit.
Monsieur Gaston. de Satan Artémise. Édouard fume le cigare et Léonard porte une barbe noire. Léontine fait la cuisine, Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond.
Le téléphone ne sonne pas souvent dans les zones blanches, sauf peut-être chez Gaston, mais il n'y a personne qui répond. Le téléphone de Nino Ferrer, décédé il y a exactement 20 ans dans la ville de Montcuq, où se sont réunis des artistes lundi dernier pour lui rendre hommage. La commune de Montcuq, entre Cahors et Agen, pas sûr que l'on s'y connecte facilement.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et on revient à notre débat sur les déserts numériques avec Benjamin Bayard, cofondateur de la Fédération French Data Network qui regroupe les fournisseurs d'accès à l'Internet associatif, Antoine Darotte, directeur de l'agence numérique en charge du plan très haut débit, et puis en duplex, Olivier Naudot, maire de Saint-Cierge-la-Serre en Ardèche, et Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Michel Combeau, est-ce que la couverture numérique ne devrait pas passer par un service universel, selon vous?
Je dirais le service universel est déjà en place en France, hein, notamment pour le réseau téléphonique. Pour autant, l'enjeu est pour nous d'arriver à une universalité d'accès pour l'ensemble des réseaux. Hein. C'est l'ensemble de nos engagements pris auprès du gouvernement, hein, que ce soit pour les réseaux mobiles ou les réseaux fixes, qui vont nous permettre effectivement d'arriver à ce que chacun des Français et des Françaises ait accès à la fois au très haut débit d'ici fin 2022 et à ce que l'ensemble des zones blanches soient résorbées très rapidement maintenant en France. Donc finalement, au-delà du débat entre service universel ou pas service universel, l'enjeu est de pouvoir donner une réponse en fait à l'ensemble de ces Français qui attendent cette couverture. Et comme Antoine Darotte le disait, ces 5000 nouveaux sites à la charge des opérateurs vont permettre de donner une réponse à ces communes qui encore ne disposent pas d'un assez bon service de téléphonie mobile.
Oui, mais vous le rappeliez tout à l'heure, ce plan zone blanche centre-bourg a commencé quand même en 2003, donc ça fait maintenant 15 ans. On a l'impression que 15 ans après, il y a quand même encore des trous dans la carte. Est-ce qu'à un moment donné, alors que parallèlement, on voit un certain nombre de services administratifs, notamment, qui aujourd'hui ont basculé uniquement sur le numérique?
D'abord, il ne faut pas avoir... on est très fiers de ce que nous avons fait avec l'État et les collectivités dans le programme Zone Blanche Centre-Bourg. Hein, c'est 3856 communes qui couvrent l'ensemble du territoire. Hein, c'est 7% de ce territoire, soit l'équivalent d'un pays comme les Pays-Bas. C'est plusieurs millions, dizaines, voire centaines de millions d'investissements conjoints entre l'État, les collectivités et les opérateurs. Mais il est clair aussi, c'est que je dirais cette notion de téléphonie mobile a beaucoup évolué depuis près de 20 ans. Il y a effectivement 20 ans, on se félicitait des millionièmes abonnés au premier réseau mobile en téléphonie 2G. Personne n'allait penser que maintenant, tout le monde souhaite avoir de la 4G sur l'ensemble du territoire. Et cette nouveauté, hein, cette nouvelle appétence des citoyens et des entreprises, bah, c'est aussi, je dirais, une nouvelle donne que nous avons pris en compte hein, dans le cadre de cet accord de janvier dernier. Et nous allons continuer à faire progresser les communes de Blanche Centre-Bourg, hein, qui passeront toutes à la 4G dans les prochaines années, et à continuer à identifier ces nouvelles zones, ces nouvelles communes, hein, que ce soit des centres-bourgs, mais aussi des zones touristiques, des zones d'habitation, parce que là aussi, notre pays évolue, qui n'était qu'une friche industrielle ou une friche agricole. va devenir demain un lotissement et donc une zone à couvrir.
Benjamin Bayard voulait réagir à ce que vous disiez.
Oui, il y a beaucoup d'éléments de langage utilisés qui ont une présentation très positive, qui me hérissent un peu. Quand les opérateurs disent « nous investissons », l'État renonce à entre 2 et 3 milliards de ressources. Donc je suis désolé, c'est pas les opérateurs qui investissent. Quand l'État sort 3 milliards de sa poche, les opérateurs qui disent « nous investissons », c'est un petit peu... Vous voyez, il y a un côté tartuffe là-dedans qui n'est pas agréable. Mais surtout, pour moi, le problème central sur les zones blanches, c'est la question du déploiement du réseau de fibre optique. La France a pris 5 ans de retard parce que France Télécom a fait tout ce qu'elle pouvait entre 2007 et 2012 pour empêcher, pour retarder. Sur les modes de régulation du système, sur les normes de déploiement, etc. France Télécom a tout fait pour ralentir. Et quand on a lancé le plan national très haut débit, on a fait le choix, sous la pression des gros opérateurs beaucoup, mais enfin le gouvernement n'était pas très hostile, de déployer essentiellement les zones supposées rentables par les opérateurs, c'est-à-dire les centres-villes, les grands bassins d'habitation, etc.
Vous voulez dire que là où c'était déjà équipé, au moins en ADSL...
Là où il y avait déjà de l'ADSL super clean, là où il y avait déjà du câble, là où il y avait déjà de la 4G, enfin là où il y avait déjà de l'internet qui débordait de partout, on a apporté de la fibre.
Plutôt que d'aller dans les endroits où il n'y avait pas grand-chose.
Plutôt que de réfléchir en aménageur du territoire et en disant, ok, quels sont les endroits où l'accès à Internet est un enjeu et un problème critique et commençons par ces zones-là. Qu'on fasse aussi ce qu'on peut de centre-ville, mais moins vite, que pas si pressé que ça, et qu'on commence par les zones où c'était urgent. Nous, les zones où on a déployé des accès Wi-Fi dès 2010, quand les gens se débrouillent pour créer leur opérateur, pour fabriquer de l'accès à Internet, il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour se dire « tiens, ici, il y a un vrai besoin sérieux ». Et en fait, on a déployé le réseau fibre avec comme souci essentiel que ce soit rentable pour les deux ou trois grands opérateurs, et pas du tout avec comme souci premier l'aménagement du territoire. La question de l'aménagement du territoire, elle débarque en 2017-2018. On la soulevait dans l'association qui s'appelait Opérateurs locaux auprès de l'ARCEP entre 2005 et 2007, quand on commençait à discuter de réglementation sur la fibre.
Antoine Daronne,
on parlait
vous,
tout seul.
Comment vous ressentez cette attaque, on va le dire, de Benjamin Bayard, qui dit quand même que les choix qui ont été faits n'étaient pas les bons?
Alors, le choix qui a été fait, c'est celui de la complémentarité et de la mobilisation générale. C'est que face à un défi qui est juste titanesque, l'idée, c'était d'être extrêmement pragmatique et de regarder là où les opérateurs étaient prêts à investir massivement et pas simplement s'en tenir à des intentions, mais bien à avoir des engagements fermes de déploiement, ce qu'on a obtenu dans les derniers mois d'ici fin 2020, sur les 34 millions de prises qu'il y a déployées en France pour atteindre tous les foyers et toutes les entreprises, les opérateurs vont en déployer 19 millions. Alors certes, ce sont dans les zones les plus rentables, les plus urbaines, mais n'empêche que ça fait avancer énormément la dynamique et que ça fait une grosse partie du chemin. Alors bien évidemment, on n'allait pas s'arrêter là et surtout on n'allait pas attendre que les zones urbaines soient terminées pour commencer le déploiement dans les zones rurales. Et c'est là le grand changement, notamment par rapport aux autres plans de déploiement d'infrastructures historiques, comme le téléphone par exemple. On avait la tonalité à Paris en 1887, il a fallu attendre plus d'un siècle pour l'avoir dans toutes les campagnes, même le réseau électrique, il a fallu 35 ans. Là, on se dit, on se donne 10 ans pour que, dans un temps similaire, qui n'est pas exactement le même, mais similaire, on ait l'accès au très haut débit et l'arrivée de la fibre optique, à la fois dans les villes et dans les zones rurales. Donc, dans les zones rurales, comment on fait? On a mobilisé l'ensemble des acteurs publics, les collectivités territoriales et l'État. L'État qui a fait le choix de mobiliser 3,3 milliards d'euros dans le contexte budgétaire actuel, c'est juste considérable.
Et en se privant également, comme le rappelait Benjamin Bayard, quand même d'un certain nombre de recettes.
Tout à fait. Et donc ça se cumule, c'est 3,3 milliards d'euros sur le fixe pour le déploiement de la fibre. Et puis sur le mobile, effectivement, le fait de plafonner le loyer d'utilisation de ces bandes de fréquences, de ces petites ondes par lesquelles passent les données mobiles, eh bien l'État a de nouveau fait un effort financier très important. Donc c'est un vrai choix de se dire, on mobilise tout le monde et en utilisant au maximum les compétences et les capacités d'investissement des opérateurs et des investisseurs privés, parce qu'il n'y a pas que les grands opérateurs, on a aussi des fonds d'investissement, la Caisse des dépôts aussi est derrière, pour à la fois déployer dans les villes et puis grâce au projet des collectivités territoriales soutenues par l'État, dans les campagnes, l'ensemble de la France sera fibrée d'ici 2025 grâce à la conjugaison de tous les efforts de tous les acteurs.
Olivier Nodot, vous qui êtes maire de Saint-Cierge-la-Serre, donc cette commune ardéchoise qui est en attente maintenant d'un relais 4G, est-ce que vous avez l'impression que pendant des années, des communes comme les vôtres ont été négligées?
Oui, c'était une attente très longue pour nous. Et puis après, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que on a quelques problèmes avec le téléphone fixe. On est bien conscient que le téléphone fixe, maintenant, on va pas se battre pour faire des investissements sur le téléphone fixe. Donc, moi, mon combat, c'était pour la 4G, pour le déploiement de la fibre optique via ADN, comme ça a été cité. Et c'est vrai que c'est une attente très longue, parce qu'on se dit, actuellement, ça fonctionne pas. On sait que ce qui va arriver est très bon, mais on voyait pas trop quand est-ce que ça allait arriver. Donc, c'est sûr que c'est une attente qui est très difficile. Après, quand on a une volonté, quand on a des financements en face, on comprend bien que ça va pas se faire en un mois. Donc, on peut patienter.
C'est un à deux ans, je crois que c'est un à deux ans. Ouais.
C'est ça, mais après, dès lors qu'on est rentré dans le dispositif, qu'on a la certitude qu'on va aller au bout, si vous voulez, ça nous encourage aussi à patienter par rapport à certaines annonces qu'il y a pu avoir par le passé, qui nous disaient « soyez sereins, il va plus y avoir de zones blanches ou très peu », mais sans nous donner plus d'objectifs chiffrés et concrets. Donc ça, c'est la grande différence pour nous. C'est long, c'est pénible, c'est difficile, mais si on a un objectif concret et qu'on a un but, on peut plus facilement attendre, quoi.
Michel Combeau, vous êtes un peu le représentant des gros opérateurs dans ce débat. Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait autour de la table l'État, les collectivités locales avec vous pour passer à cette phase, je dirais, d'objectif quasiment 100%?
Alors oui, alors déjà, je voulais juste répondre au côté Tartuffe, je dirais, de mes interventions, juste pour repréciser que les opérateurs investissent près de 10 milliards d'euros par an dans leur réseau, sur le territoire, hein, et notamment près de 3 milliards d'euros dans la téléphonie mobile de manière annuelle, et que les 3 milliards d'euros annoncés viendront en plus de ces investissements. Alors, c'est vrai que pour nous, le partenariat avec l'État et les collectivités est très important. Pourquoi ? Parce que notamment, nous ne sommes pas forcément les mieux à même de déterminer les zones à couvrir. On le sait, les collectivités, hein, que ce soit les communes ou les départements, ont une connaissance plus fine des besoins en matière de couverture. Je parlais tout à l'heure d'ouverture de zones d'activité ou de zones résidentielles, ou même effectivement, hein, je dirais ces communes où le centre-bourg et les hameaux peuvent effectivement être très éloignés les uns des autres. Cette connaissance de terrain, pour nous, elle est essentielle, à la fois pour connaître la localisation des zones à couvrir, mais aussi pour identifier les terrains les mieux à même de couvrir ces zones et nous aider, en tout cas, à accélérer le déploiement de ces réseaux. Et donc, ce partenariat, pour nous, est essentiel et c'est l'une des conditions de réussite de nos engagements.
Mais il y a le partenariat pour, en effet, connaître les réalités du terrain, et puis il y a aussi le partenariat économique.
Maintenant, je dirais, les choses sont beaucoup plus claires, hein, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile. En fait, on s'est rendu compte que le partenariat économique, et donc de demander à des communes ou des départements d'investir, c'est pas forcément la meilleure solution. Pour preuve, en fait, un certain nombre de communes étaient bloquées par absence de financement public. Et donc de reprendre, en fait, l'ensemble des investissements avec effectivement ce cadre stable pour les 12 prochaines années a permis effectivement de lever cette hypothèque financière et nous concentrer, en tout cas, pour déployer ces réseaux et pouvoir disposer, en fait, de cette connaissance fine des élus sur leur territoire.
Benjamin Bayard, vous travaillez avec des petites collectivités également. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression qu'il fallait attendre ce tour de table, cette réunion tripartite pour que les choses avancent?
Dans le fonctionnement classique des grands opérateurs français, oui, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'ils ne veulent pas y aller, en fait. Il faut leur tordre le bras pour qu'ils y aillent. Eux, ils ont envie de faire les zones où c'est très rentable et où il y a peu de travail à fournir. Mais ça se comprend, enfin, je veux dire, ils cherchent la rentabilité, ils cherchent pas... L'aménagement numérique du territoire, Orange n'en a rien à secouer, quoi. C'est pas son boulot, c'est le boulot du ministre. Le boulot d'Orange, c'est de rapporter le maximum d'argent en faisant le minimum d'efforts, comme n'importe quelle entreprise. Donc, en fait, ils ont accepté parce que l'État a proposé... de réduire la quantité d'impôts qu'ils demandaient sur les fréquences, si en échange les opérateurs se mettaient à aller bosser là où c'est pas rentable. Et c'est pas par bonté d'âme qu'ils ont accepté, c'est que ok, le deal était pas idiot, parce que ils y perdaient pas d'argent, ils en gagnaient pas vraiment, ils gagnaient un petit peu en notoriété, c'est-à-dire comme tout le monde leur crache dessus en permanence parce que ah là là ça capte pas, bon bah ils gagnent un peu en image de marque et puis ça leur coûte pas grand-chose. Mais c'est ça le fond du deal. Et donc en France, avec les grands opérateurs, ça pouvait pas marcher sans intervention de l'État. Et nous, ce qui nous a empêché de bosser, c'est très souvent des détails qu'on voit pas. C'est jamais des histoires d'argent, en fait. On a peu de problèmes d'argent, parce qu'on fonctionne avec très peu de sous, et puis on fonctionne bien comme ça. En revanche, on a des tas de problèmes réglementaires. Quand un pylône existe et qu'on veut aller installer une de nos antennes dessus pour couvrir une zone en Wi-Fi, tout le monde nous met des bâtons dans les roues. Et même quand le maire de la commune est hyper partant, en fait, les points hauts les plus pratiques pour nous, c'est les églises. Parce que, en fait, le maire de la commune, il a autorité sur l'église qui est au cœur du village, et donc on peut utiliser ce point haut. Mais si on veut aller poser une antenne sur un pylône, typiquement les pylônes qui vont être payés par l'État, dans le cadre des couvertures des 5000 pylônes là, qui vont être déployés, je suis intimement convaincu que ces pylônes appartiendront aux grands opérateurs et qu'il nous sera interdit d'opérer dessus alors qu'ils ont été in fine financés par l'État.
Vous confirmez, Antoine Daronne ?
Alors, les pylônes ne sont pas payés en tant que tels par l'État. Hein. C'est un accord global où on plafonne le loyer que payent les opérateurs à l'État pour l'utilisation des fréquences. Et en échange, on leur demande d'investir davantage. Donc, ce seront bien sûr leurs pylônes. Alors après, effectivement, hein, sur l'accès à ces pylônes et l'utilisation des fréquences, on a aujourd'hui deux grands organismes, l'ARCEP, l'autorité de régulation, et l'ANFR, l'agence des fréquences, qui sont chargés de veiller à ce que, eh bien, il n'y ait pas d'interférence et que le fait d'allumer une certaine fréquence ne brouille pas ou ne génère pas des interférences par rapport aux autres réseaux mobiles. Mais encore une fois, on est convaincu que c'est la mobilisation de toutes les solutions et des solutions de Wi-Fi ou d'autres types de radios qui permettront d'apporter du très haut débit sont nécessaires si on veut faire du 100% très haut débit pour l'ensemble des foyers. On n'y arrivera pas avec des solutions nominales à faire du 100%, et donc on a besoin de ces technologies alternatives.
Vous faites une bonne transition. Dans quelques instants, on va parler justement peut-être de ces autres solutions. Dernière partie de ce débat consacré au désert numérique, avec une question posée à chacun d'entre vous. Selon vous, est-ce que aujourd'hui ces déserts numériques, ces zones blanches sont inévitables, ou est-ce qu'à un moment donné, eh bien, on arrivera à couvrir l'ensemble du territoire ? Je vais d'abord poser la question à Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms.
Je dirais l'enjeu du point de vue des opérateurs est celle, je dirais, d'étendre la couverture de nos réseaux. La notion de désert est finalement relative. Comme je l'expliquais, nos territoires évoluent sans cesse, hein, à la fois parce que les communes essaient de se développer, d'attirer, je dirais, de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises. Et c'est cette évolution que l'on doit effectivement accompagner et être capable de traiter, notamment en permettant la remontée des enjeux de couverture. Donc en tout cas, je pense que dans les prochaines années, beaucoup de choses auront été faites et beaucoup de choses auront été couvertes. Il y a aussi un processus industriel à mettre en œuvre, à améliorer, tant pour les réseaux fibre optique que pour la téléphonie mobile. Ce sont des chantiers nationaux. Et l'enjeu est aussi, c'est ces fameux 5000 sites, de pouvoir répondre à l'évolution de la demande, à l'évolution de nos territoires. Et c'est en répondant le plus rapidement possible à ces évolutions que nous aurons, je l'espère en tout cas, répondu aux attentes de nos concitoyens.
Alors, Olivier Naudot, vous qui êtes maire donc en Ardèche, une petite commune en Ardèche, vous savez que d'ici peut-être un an à deux ans, vous aurez la 4G. Et en même temps, aujourd'hui, il y a un plan européen qui parle déjà de la 5G. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous serez servi au moment où on sera déjà en train de mettre en place autre chose ?
Si, c'est évident, mais enfin, je pense qu'il faut avoir vécu en zone blanche pour comprendre ce que c'est que de devoir faire 3 km en voiture pour envoyer un SMS, de pas pouvoir faire quoi que ce soit sur Internet. Dès lors qu'il y a une confirmation de paiement ou on reçoit un code par SMS, évidemment, le temps d'aller chercher le code, la page est plus d'actualité. Enfin, on part de tellement loin et on était tellement mal lotis que d'avoir un train de retard, à la limite, ça nous gêne pas. On est dans un tel état d'esprit
d'attente. Vous aurez au moins déjà le train qui sera arrivé.
Voilà, la 4G, ça nous ira très bien.
D'accord. Benjamin Bayard, vous avez l'impression qu'à un moment donné, on va réussir à servir tout le monde ?
Alors, il y a une différence entre zéro zone blanche et servir tout le monde. Chaque réseau a toujours sa zone blanche. Le réseau ferré, il a ses zones blanches. Il se trouve qu'on les augmente en ce moment en fermant les gares et en fermant les lignes.
De plus en plus.
Mais il a ses zones blanches. Il y a des coins. Il y a plein d'endroits en France où je peux pas aller en métro, quoi. C'est pas forcément gênant du moment qu'il y a quand même un réseau et qu'il y a un réseau qui est un peu adapté. Typiquement, la commune dont on parle depuis tout à l'heure, je suis intimement convaincu qu'avec un informaticien d'un peu mauvaise humeur qui habite là-bas, ils auraient eu un réseau Wi-Fi il y a 5 ou 10 ans. Parce que c'est pas très compliqué. Et en fait, on reste hyper centralisé en France à vouloir que ce soit absolument déployé par Orange, à vouloir absolument que ce soit piloté depuis Paris. Et il y a très souvent des solutions locales qui marchent.
Michel Combeau, vous pensez que on peut, vous, c'est votre objectif, vous avez jusqu'à 2022 pour couvrir, en tout cas avec la fibre, le territoire, avec le très haut débit. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera réalisable ?
Ça le sera, l'élimination de toutes les zones blanches, en tout cas pour les foyers et les entreprises, est une absolue nécessité. Pourquoi ? Parce que on fait pas ces infrastructures juste pour passer des coups de fil ou aller surfer rapidement sur Internet. C'est que ce sont des supports qui sont essentiels au service public de demain, au maintien des personnes à domicile, à la télésanté, à l'éducation. Et donc, toute personne qui n'aura pas accès à ces infrastructures de communication électronique sera de fait exclue de tous ces services à la personne, de tous ces services publics. Et donc, c'est un présupposé indispensable. Donc, oui, on va y arriver par tous les moyens, en mobilisant toutes les solutions pour que sur chaque foyer, chaque entreprise, il y ait une bonne connexion mobile en 4G et en très haut débit et en fibre optique pour d'ici 2022. Encore une fois, c'est une fondation qui est essentielle pour pouvoir construire la société de demain. Et quand on vit dans une république, c'est très important que chacun ait une égalité d'accès à ses infrastructures pour qu'il y ait une égalité d'accès aux services sous-jacents.
Et je vous ai appelé Michel Combeau au lieu d'Antoine Dahut. Je suis désolé, on aura compris. En tout cas, vous représentez l'agence du numérique en charge du plan très haut débit. Merci donc à nos invités, Benjamin Bayard donc de la Fédération French Data Network qui regroupe les fournisseurs d'accès associatif, Antoine Dahut donc directeur de l'agence du numérique et Michel Combeau qui était au téléphone, directeur général de la Fédération Française des Télécoms et enfin en duplex depuis Valence, merci aux équipes de France Bleu, Olivier Naudot, maire de Saint-Cierges-la-Saint en Ardèche. On se retrouve jeudi pour parler de cinéma, environ 300 films sont produits chaque année en France. Une partie d'entre eux ne resteront qu'une ou deux semaines à l'affiche et attireront seulement une poignée de téléspectateurs dans les salles. Alors, une question, produit-on trop de films ? Vous pouvez réagir, témoigner sur la page franceinter.fr.